Les pommes aussi subissaient le même rituel. On ne les mangeait jamais fraîches et croquantes. Il fallait toujours finir les flétries et les piquer. Il fallait savoir jouer du couteau. Une fois retiré la peau et le marron, on se retrouvait avec des morceaux de pommes aux formes étranges, des casse-têtes chinois en pommes. Quand elle coupait une pomme, Mémé prenait le couteau en son milieu. Ainsi, de son poing refermé, ressortait le pointu de la lame d'un côté et l'extrémité du manche de l'autre. Le fruit se trouvait travaillé, tranché par un drôle d'outil, un sécateur fait d'acier et de pouce humain. Le pouce et la lame coinçaient le bout de pomme tranché et allaient directement dans la bouche. Puis elle piquait un morceau de camembert qui allait vite rejoindre la pomme pour se faire écrabouiller ensemble. Je l'ai rarement vue tenir un couteau autrement. C'est comme cela aussi qu'elle énucléait les pommes de terre et c'est comme cela qu'elle coupait la baguette coincée sous son bras et pressée contre sa poitrine. Vieux reste d'un temps où le pain était gros et gris et se mangeait au champ. La miche devant rester propre, il fallait tout de suite donner le morceau tranché. Le pain passait de main en main. Une fois terminé son adolescence molle, le quignon dans sa huche devenait dur. Alors Mémé le découpait en petits copeaux qui tombaient ensuite dans l'assiette de soupe ou de lait cru. Pas besoin de corbeilles dispensieuses posées sur la table, ni de croix chrétiennes tracées sur la croûte. Pas d'énervement lorsqu'il n'était pas posé sur son côté plat et noirci par la tôle du four. Le pain, comme Mémé, vivait sa foi tranquillement, une foi paisible sans religion ni superstition. Parce que la peur, la vraie vie vous la fait vivre, celle de l'au-delà n'est pas de taille. Alors on laisse le pain tranquille et le chat a le droit d'être noir. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h en semaine impaire, mais aussi quand vous le désirez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. Une façon de trancher les pommes, le pain, les patates, au cœur d'une petite cuisine que l'on imagine d'un autre temps. Une main, un pouce, une poitrine contre laquelle se reposer. Une foi paisible, celle de Mémé, la Mémé de l'acteur et auteur Philippe Torreton, racontée dans un livre éponyme, Mémé donc, paru en 2014 aux éditions de l'Iconoclaste. Nous restons en cuisine, tablier noué, odeur savoureuse, avec mon invité du jour que je suis très heureux d'accueillir au micro de Radio G, Cécile Holman, créatrice d'un comptoir à cookies au Pont-de-C, qu'elle a baptisé Jeannette et Marius, en hommage à ses grands-parents maternels. Bienvenue Cécile, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci à toi.
Alors Cécile, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères?
Alors, grand-mère paternelle, elle s'appelait Cécile, comme moi, donc j'ai hérité de son prénom. Et grand-mère maternelle, Marie-Jeanne, dit Jeannette, pour le nom de l'entreprise.
Et alors toi, comment tu les appelais? C'était Jeannette, donc c'était Jeannette son surnom, ou mamie Jeannette?
C'était mamie Marie-Jeanne.
Mamie Marie-Jeanne.
Oh, oui, 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 on avait même des petits surnoms, si je veux aller plus loin. Marie-Jeanne Quétant Poupoule. Je ne sais même plus pourquoi. C'était son petit surnom.
Donc les gens l'appelaient Jeannette, mais toi, son prénom, son surnom
c'était
de
Marie-Jeanne.
Grand-mère, c'était son surnom de grand-mère, c'était
mamie Marie-Jeanne.
Mamie Marie-Jeanne.
Oui, tout à fait.
Et elle t'appelait comment? Elle avait des petits noms pour toi?
Alors, pour la petite particularité, ma grand-mère était tétraplégique et ne pouvait pas parler. Je l'ai connue, moi, elle était déjà en fauteuil roulant et elle parlait très peu. Donc, je n'ai pas de souvenir d'elle en train de m'appeler par mon prénom.
Tu n'as pas sa voix?
Non.
Tu n'as pas connu de voix?
J'ai une petite voix parce qu'elle essayait de dire des choses. Elle essayait de parler, mais malheureusement, je n'ai pas sa voix qui m'appelle directement.
Alors, cette grand-mère maternelle, qu'est-ce qui lui est arrivé pour devenir tétraplégique ainsi?
Eh bien, elle a fait 4 AVC en 20 ans.
D'accord. Et ils sont arrivés tôt dans sa vie, du coup
Alors, elle est arrivée, le premier AVC qu'elle a fait, elle l'a fait à 60 ans. Elle a enchaîné plusieurs fois après, enfin plusieurs AVC. Moi, je suis arrivée, elle était déjà en fauteuil roulant. Alors, j'ai quelques souvenirs d'elle en train d'apprendre à marcher, mais principalement en fauteuil roulant directement.
Et qu'est-ce que ça t'a laissé comme trace? Parce que j'ai l'impression qu'elle essayait, qu'elle luttait, qu'elle vivait quand même des moments malgré cet état-là.
Ouais. Elle se battait, elle essayait à tout prix de se faire comprendre déjà. J'ai beaucoup de souvenirs autour de cette maladie, en fait, où on devait l'aider, tout simplement. Donc, j'étais avec elle pour lui donner à manger, pour lui donner à boire. Je me souviens qu'elle en avait fait un, elle a fait un AVC quand j'étais encore jeune, et ça a été le plus fort, où elle ne pouvait plus du tout manger de choses classiques, il fallait hacher, mixer. Et je me souviens avoir eu une idée de lui donner une glace. Et ça a été l'élément qu'elle a pu remanger toute seule. Et elle m'avait regardée avec des grands yeux, tellement contente de pouvoir remanger une glace. Enfin, voilà. Donc, on était, nous, dans l'aide, dans l'entraide. Je dormais avec elle, je m'occupais d'elle. Et puis, bon, elle adorait. Alors, on est d'une famille du Nord, de la France. Et c'est un peu cliché, mais on adore les frites. les bonnes frites.
À la graisse de bœuf.
Exactement, en double
cuisson. Merci.
En double cuisson. Et elle adorait manger les frites. Donc, on lui faisait toujours des frites pour lui faire plaisir. Et ça, elle arrivait à les manger. Donc, voilà, elle avait quand même sa main qui pouvait bouger, attraper cette petite frite et les manger. Et elle avait toujours tout passé par le regard, en fait. Beaucoup, beaucoup passé par le regard. Et puis, elle rigolait. Beaucoup. Elle rigolait. Elle avait des fous rires. J'ai un souvenir d'elle ou un mot. Alors, c'est peut-être un peu déplacé. Mais elle avait un mot. Elle était morte de rire. Elle disait « dégueulasse ». Avec sa petite voix, et elle était morte de rire parce que c'était le seul mot qu'elle arrivait à sortir.
Un mot compliqué pourtant.
Compliqué, et je sais pas pourquoi, mais ça a été un mot, et j'ai souvenir d'elle en train de me regarder et puis être morte de rire parce qu'elle me dit dégueulasse alors qu'il n'y a pas de raison. Mais voilà.
C'était très utile pour orienter les choses que tu lui donnais à manger ou pas, qu'elle pouvait refuser ou pas.
Complètement.
Et géographiquement, ça se passait où tout ça? C'était dans le nord de la France?
C'était dans le nord de la France.
Vous étiez déjà, d'accord.
Non, je suis née à Lille et eux, ils étaient sur Armentières, donc une petite ville dans le nord de la France. Et au décès de mon grand-père, elle est venue vivre chez nous, en fait, à la maison. On a aménagé tout un espace pour elle, avec un lit médicalisé, des soins tous les jours. Et donc ça, c'était à Sente, une petite ville dans le nord de la France. Jusqu'à mes 17 ans, et on a déménagé ici avec elle, à Angers. Elle nous a suivis, mais malheureusement, elle est décédée très très peu de temps après, quelques jours après le déménagement.
Oui, donc il y avait une grande proximité, elle était avec vous, elle était dans la maison, et vous participiez tous à s'occuper d'elle, à tout, et toi, ça a créé un lien très fort.
Ça a créé un lien très fort, j'étais jeune, quand on regarde, ouais, j'avais 15-16 ans, et plutôt que d'aller jouer avec les copains et les copines à l'extérieur, je m'occupais de ma grand-mère. Alors pour la petite histoire, mes parents étaient restaurateurs, et ils avaient une salle de réception aussi à la maison. Donc, je vacillais entre la réception le week-end, souvent sur des mariages, des baptêmes, où je servais le repas avec mes parents. Et puis, je m'occupais de ma grand-mère le reste du temps. Les copains venaient à la maison, ils connaissaient très bien ma grand-mère. Mais moi, je sortais peu au final, puisque quand mes parents travaillaient, c'est moi qui jouais le rôle de l'aidant, en fait, de la garde de ma grand-mère.
Alors, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, les regards, les sourires, c'était quoi précisément donc les modes de communication pour se comprendre, pour partager des choses?
Malheureusement, ça se résume à ça, des oui, non de la tête. Elle ne pouvait pas écrire non plus, elle avait une main complètement atrophiée. C'était des oui, des non, et puis elle essayait de nous montrer avec ses yeux des choses qu'elle voulait, qu'elle avait envie. Voilà, on avait toute une conversation quand même, mais par des oui ou par des non. Ça se limitait quand même, effectivement.
Et est-ce que dans ces empêchements, il y a eu aussi la naissance de quelque chose un peu qui dépasse nos modes de communication habituels, des espaces un peu nouveaux aussi, par les regards, des partages un petit peu...
C'est vraiment moi tout dans le
différent.
Regard.
Ouais, ouais, c'est le regard toi qui te reste.
Les yeux de ma grand-mère qui malheureusement ne pouvait pas faire grand chose d'autre.
Mais tu la comprenais par ça, tu l'entendais par ça.
Complètement. Ouais. On arrivait à communiquer comme ça.
Et est-ce que tu lui lisais des choses? Elle pouvait écrire ou non? C'était compliqué.
Non, elle ne pouvait pas écrire. Elle regardait la télé. Ouais. Ça regardait la télé, puis j'ai des émissions en tête qu'on regardait ensemble, ça elle faisait. Et puis je la vois dans son grand fauteuil nous regarder, nous on jouait, j'ai un petit frère avec moi et donc on jouait à côté d'elle, on essayait de la faire participer quand on jouait aux cartes, je me souviens de lui tenir son paquet de cartes, par exemple, des choses comme ça, on essayait de partager. D'autres choses que du quotidien classique, là, quand on est malade malheureusement. Ouais.
Est-ce que toi... En tant qu'enfant, adolescente, tu lui racontais aussi ta vie, ce que tu traversais. C'était aussi un espace peut-être pas de confession, mais lui partager aussi ton quotidien.
Oui, je pense surtout, je nous vois le soir à table avec mes parents, de raconter sa journée de travail, d'école, ce qu'on apprend, etc. Oui, je pense. Et puis, elle était vraiment connue de mon cercle amical. Donc, quand on avait des gens à la maison, des amis, ils venaient, bah, on l'incluait dedans. Elle était avec nous, on s'en occupait, on jouait dehors, on la mettait devant la baie vitrée, qu'elle puisse nous regarder et puis nous participer avec nous comme elle le pouvait.
Ouais, elle était là, elle était pleinement là, elle n'était pas du tout à l'écart.
Ouais, complètement. Ouais, ouais.
Et alors, Marie-Jeanne, Jeannette, elle est aussi dans le nom de du projet que tu as créé. Comment ce lien s'est fait? Comment tu as eu l'idée
fait,
de
oui.
donner ce nom?
Moi, j'ai, donc, pour la petite histoire, un parcours complètement autre que de la pâtisserie, parce que j'étais dans les ressources humaines. J'avais fait le tour de mon entreprise, du métier que je faisais. Néanmoins, j'avais toujours eu un pied dans la restauration. Parents restaurateurs, conjoint pâtissier, je travaillais dans une société de restauration. Et la suite logique a fait que j'ai voulu créer ma propre marque. Ce n'est pas tant le fait de faire des cookies, mais c'est de créer mon univers, créer ma propre marque qui me ressemble. Et je voulais une entreprise qui me fasse penser à tous ces souvenirs d'enfance, et notamment les dimanches en famille chez les papy-mamies, à l'époque où ils habitaient encore ensemble à Armentières. J'ai ce souvenir d'aller tous les dimanches, quand mes parents ne travaillaient pas, passer un moment avec mes grands-parents toute la journée, partager le repas. Et c'était ce moment-là en fait, qui m'a marqué toute mon enfance, c'est ce dimanche en famille. Il y a des chansons qui disent le dimanche en famille devant l'éternel gigot, bah, c'est un peu ça. Nous, c'était le poulet rôti frites de mon grand-père. Et j'ai voulu créer cette entreprise autour donc, des cookies parce que c'est un produit qui est universel, qu'on déguste à n'importe quel moment, qui se démultiplie en termes de recettes et qui rassemble. Ce souvenir de préparer le repas ensemble, de partager ça. J'ai ce souvenir de ma grand-mère qui y arrive avec la boîte à gâteaux en fer, rempli de petits biscuits, on peut appeler les biscuits, voilà, des cookies, des sablés, voilà, qu'elle posait sur la table et qu'on partageait, qu'on se disputait même pour avoir le plus. Mais c'était, voilà, quand j'ai créé l'entreprise, j'ai cherché effectivement un nom d'entreprise et ça m'est venu tout de suite. En fait, à la base, je voulais appeler l'entreprise Marie-Jeanne. Puis de fil en aiguille, en discutant autour de moi, j'avais besoin d'avoir des avis. Je me suis dit, bah, pourquoi pas inclure papy? Parce que papy était aussi bien présent dans ma vie. Il est décédé un peu plus jeune, mais voilà, Marius était là aussi. Donc, Jeannette et Marius est né comme ça, sur le fait de partager, autour du partage des repas, et notamment bah, des cookies.
Et avec cet espace fondateur, les dimanches, midi, chez les grands-parents, qu'est-ce qui se passait d'autre? Est-ce que tu peux nous projeter un petit peu dans cet univers-là qui a été si marquant pour toi?
Ouais.
Les odeurs, petits souvenirs,
c'est
des petits
odeurs,
objets.
Moi. L'odeur elle joue chez moi, ça a de l'importance vraiment. J'ai cette odeur d'ail qui était sur le poulet de mon grand-père. Il le faisait cuire assez fort et donc là, il était noir. Et on adorait pouvoir récupérer les morceaux d'ail dans l'assiette. Les frites, les éternelles frites du nord de la France. Mais on adorait ça, avec de la mayonnaise toujours dans le nord. Voilà, c'est vraiment ces odeurs qui me parlent. Cet appartement de chez mes grands-parents que j'ai toujours en tête, alors que j'étais jeune. Hein, quand mes grands-parents sont partis de l'appartement, je devais avoir une dizaine d'années. Mais je peux décrire l'appartement, l'odeur effectivement de mes grands-parents, de la salle de bain, des chambres, voilà. Et puis cette ambiance en fait vintage au final, des meubles anciens, des grands canapés en tissu, voilà, où on se retrouvait tous entre cousins aussi. On avait ce partage-là de se retrouver entre cousins et de pouvoir jouer, se retrouver tous les dimanches. C'était vraiment... J'ai toujours cette appréhension quand on montait dans l'ascenseur, c'était au troisième étage, quand la porte s'ouvre et qu'on arrivait devant cet appartement, on était toujours très contents de s'y retrouver tous ensemble.
Merci Cécile, on y était un petit peu avec vous grâce à ta description. Alors ce comptoir à cookies, Jeannette et Marius, qui est un hommage aussi à tes grands-parents maternels, de quelle manière Jeannette inspire aussi son évolution, le quotidien de ce que tu y fais?
En fait, elle m'accompagne au quotidien. Dès la création, dès l'évolution de l'entreprise, quand j'ai créé l'entreprise, j'ai du coup nommé tous mes cookies avec un prénom vintage. Donc déjà, Jeannette a son cookie avec ce qu'elle adorait. Des noisettes, du praliné noisette, des chocolats. Marius a son cookie aussi avec du caramel et des noix de pécan. Et j'ai décliné toute une gamme de cookies au prénom vintage de gens que j'ai pu connaître
Les prénoms de grand-mère.
De grand-mère, de la boulangère, l'épicier. Voilà, j'ai...
Oui, des prénoms qui, pardon, c'était pas forcément des grand-mères, mais qui faisaient partie de cet univers d'enfance.
Ouais, ouais. Okay. Mais au final, je me rends compte énormément que c'est beaucoup de grand-mères, en fait, puisque quand j'ai des clients qui disent « Ah bah, j'ai mon oncle qui est là, ou j'ai ma grand-mère », ça fait plaisir de voir, j'ai des Pierrettes, des Louisettes, et les gens s'y réfèrent. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup de Marius aussi maintenant, mais des petits. C'est redevenu à la mode, donc, et des Jeanne ou Jeannette. Donc voilà, ils sont contents de pouvoir retrouver leur prénom. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'entendre des personnes, on va dire, un peu plus de mon âge, qui parlent de leur grand-mère. Quand ils voient le prénom de leur du cookie et qui leur appellent en fait la grand-mère ou la tante, etc. Donc ça, c'est les cookies qui m'ont inspirée en fonction de ce que j'ai pu connaître étant plus jeune. Et puis, j'ai essayé de décliner toujours mes produits autour de souvenirs que j'ai pu avoir de mes grands-parents. Par exemple, j'ai créé une boîte en alu, une boîte à gâteaux, qui du coup se conserve comme une boîte à gâteaux de mamie, avec un dessin dessus d'Angers et mes deux grands-parents. Et pour la petite histoire, il y a sur cette boîte un petit jeu de chercher trouve. Mais à l'époque, alors pour ceux qui connaissent un petit peu le nord de la France, il y a un journal qui s'appelle La Voix du Nord, qui est très connu, avec un jeu qui était saisonnier, qui s'appelle le Trucmuche.
Le Trucmuche, ouais, je connais bien. Ouais. Bah, je suis du nord aussi, tout ce que j'entends est très familier.
Voilà. Donc le Trucmuche, moi c'est un souvenir de mon grand-père. Moi, c'était génial.
Et dans La Voix des Sports aussi le lundi.
Ah oui, mais c'était plutôt la Voix du Nord. C'était le plaisir de se retrouver avec mon grand-père. Là, pour le coup, c'est un souvenir avec mon grand-père. Et j'y tiens. Enfin, plus tard, je lirai un texte qui m'a fait penser à ça. Mais j'étais en voiture et je regarde le château d'Angers, j'étais vraiment au feu rouge au château, mais j'y tiens, il faudrait que je glisse un petit objet dans le château sur mon dessin. Je dis, ça me ferait penser au Trucmuche. Et donc, sur ma boîte, il y a 5 petits objets liés à la pâtisserie qui sont cachés, qui me rappellent le Trucmuche de quand j'étais petite du nord de la France. On ne connaît pas ça sur Angers, le Trucmuche. On connaît le chercher trop, qui ressemble beaucoup.
Oui, c'était un dessin avec beaucoup de lignes à l'intérieur et il y avait des objets.
Et des formes qui étaient cachées, exactement. On adorait faire ça et c'était sur une saison, enfin, c'était pas tout le temps. Donc, il y a cette boîte à cookies que j'ai créée pour faire perdurer ce côté préparation qu'on garde du gâteau de grand-mère qu'on ramène sur la table. Et puis, un dernier point où j'ai voulu partager un peu plus et aller plus à la rencontre des personnes. Et donc, j'ai créé des ateliers cookies. Ateliers que je fais avec des enfants qui viennent avec soit leurs grands-parents, ça j'adore, soit avec leurs parents ou marraines, etc.
Ils ont le droit aussi de venir avec quelqu'un d'autre que leur grand-mère.
Complètement, avec qui ils veulent. Et puis on partage un moment de cuisine ensemble. Voilà, vraiment le fait de cuisiner ensemble. Et j'ai décliné ces ateliers-là dans les EHPAD, puisque du coup j'avais envie d'être encore plus au contact des personnes âgées. Et donc je fais des ateliers aussi maintenant au contact des personnes qui sont en foyer logement et on partage pendant une heure et demie la préparation d'un cookie. Alors, on essaye de se rappeler des souvenirs d'odeurs, de textures, de recettes. Et puis on déguste ensemble après.
Il y a un moment présent à vivre ensemble, à travers les souvenirs, et à fabriquer encore cuisine. Quelque chose ensemble.
Autour de la cuisine, et puis on essaye de se questionner sur ce qu'ils faisaient avant, les enfants qu'ils ont, et puis les prénoms. Mais j'adore retrouver, entre guillemets, les prénoms de mes cookies autour de la table. Je rencontre des vraies Pierrettes, des vraies Jeannettes autour de moi.
C'est vrai que ce cookie, il est non excluant, quoi. Mm-hmm. C'est quelque chose qui réunit un peu.
C'est lambda, un cookie, mais au final, on peut en faire plein de choses. Et on peut le déguster à n'importe quel moment. Donc, c'est pour ça qu'en fonction des différentes étapes de la journée, on le fait au goûter avec les enfants, on le fait avec les grands-parents. Et puis, voilà, on peut multiplier les recettes en fonction des goûts. Donc, c'est ce qui est chouette. C'est ce qui m'a plu dans ce projet.
Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, on a l'impression que Jeannette, elle est omniprésente dans toutes les étapes de cette construction, que tu t'y réfères, Jeannette, et puis globalement, cet univers d'enfance. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'avenir ou perspectives qui sont liés aussi à cette source d'inspiration?
Je ne m'arrête jamais en termes d'idées. Il faut des fois que je m'arrête et que j'aille petit à petit. Je franchis quelques étapes au fur et à mesure. Un jour, j'aimerais avoir une petite boutique et avoir cet esprit vintage justement dans cette boutique avec des choses récupérées, retapées, remis au goût du jour tout en gardant ce souvenir qu'il a existé ailleurs quelque part pour d'autres. Voilà. Donc oui, ça ce serait l'ultime étape d'avoir cette petite boutique à moi dans cette atmosphère vintage tout en gardant le côté un peu modernité quand même. Mais de concrétiser ce projet, c'est avec cette boutique-là.
On va parler maintenant de la grand-mère paternelle,
oui.
Cécile.
Oui.
Est-ce que tu peux nous... Je crois que Cécile, tu ne l'as pas connue, mais est-ce que tu peux nous dire qui était Cécile, quelle a été sa vie?
Oui, alors Cécile, donc, elle est la maman de mon papa, qui est née donc, en 1917 en Pologne et qui est décédée en 1989. Donc je l'ai connue un an, mais je n'ai aucun souvenir. Pour autant, je porte son prénom, donc j'ai quand même une histoire forte autour de cette grand-mère que je n'ai malheureusement pas connue. Et qui plus est, c'était un secret de famille, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elle a une histoire tellement forte que ce sont des choses qu'on a tues pendant longtemps. Où c'était un sujet un peu tabou à la maison, donc on en apprend petit à petit, mais c'est pas toujours évident. Pour la petite histoire, donc ma grand-mère était juive avec donc mon grand-père. Elle a connu mon grand-père qui lui était tailleur, et puis elle l'accompagnait dans son métier en fait sur la préparation des costumes, toute la partie couture, etc. Ça a une importance par rapport à leur histoire, ce que je dis. Donc malheureusement, mon grand-père a été déporté à Auschwitz pendant 4 ans. En 1940, il a fait partie de la rafle. Ma grand-mère, elle, a pu se cacher. Elle avait un enfant de 6 mois, donc ma tante, pour la petite histoire que je n'ai pas connue non plus. Ils se sont cachés dans les caves et ils ont été sauvés par des Français. Ils se sont réfugiés dans les montagnes, au niveau de Grenoble. Voilà. Ils se sont réfugiés pendant 4 ans. Elle a travaillé dans une auberge pendant 4 ans. Pendant ces 4 ans, mon grand-père n'a pas été exécuté. Ce qui l'a sauvé, c'est son métier. Il était du coup... Il faisait les manteaux en couverture pour les Allemands. Voilà, donc c'était ça la petite...
Oui, il fait partie de ces gens déportés à qui on a donné un rôle, oui. Et qui ça a assuré leur survie.
Exactement, c'est ce qu'il
a sauvé. Avec aussi la culpabilité qu'il peut y avoir derrière sur ce genre de situation très complexe.
Complètement. Donc quand il a été libéré, il a appris que sa femme était partie à Grenoble. Alors, il était de Paris à la base, c'est vrai que je n'ai pas précisé.
Oui, ils avaient émigré de Pologne vers Paris à un moment donné, avant la guerre, j'imagine.
Oui, exactement, et il s'est fait arrêter pendant la rafle. Et donc, il a appris que sa femme était partie vivre à Grenoble, il a tout fait pour la retrouver. Et pour la petite histoire, il ne faisait que 37 kilos à la sortie de ses 4 ans d'emprisonnement, de déportation. Et quand il a retrouvé ma grand-mère, elle ne l'a pas reconnu. Elle a eu beaucoup de mal à le reconnaître. Elle ne pensait pas que c'était lui, déjà qu'il serait encore là. Et voilà, ne l'a pas reconnu. Donc voilà, après, bon, ils ont fait en sorte de se reconnaître mutuellement. Ils sont repartis vivre à Paris. Voilà, et donc
Ils se sont retrouvés.
Ils se sont C'est retrouvés. Magnifique. Ils ont eu d'autres enfants, dont mon papa, parce que mon papa n'était pas encore né à cette époque-là. Donc, dont mon papa, et ils sont partis vivre à Paris. Et malheureusement, ma grand-mère est décédée à 78 ans. Donc une histoire assez forte, prenante, qui génère dans la famille des non-dits parce qu'on a toujours peur de raconter ces choses-là. Moi, mon grand-père, pour le coup, je l'ai connu jusqu'à ses 97 ans. Il a vécu jusqu'à 97 ans malgré toute son histoire. Malheureusement, je n'ai pas vécu de relation avec lui fusionnelle dans le sens où il est devenu un peu fou avec cette histoire. Il partait, il vrillait, il n'arrivait plus à être aimable, on va dire. Et il vivait chez nous, pour la petite histoire, aussi.
Mais tu sens qu'il était habité par ce drame qu'il avait vécu.
Il parlait d'Hitler, beaucoup. Et puis quand on est une adolescente d'une dizaine d'années, on ne se rend pas compte de cette histoire-là. Aujourd'hui, je regrette parce que j'aurais aimé connaître, lui parler et puis de le questionner. Mais non, on m'a toujours dit ton grand-père est devenu fou avec cette histoire. Et puis il vivait chez nous. Avec ma grand-mère maternelle, pendant un moment, j'avais le grand-père maternel, le grand-père paternel et
D'accord.
la grand-mère maternelle dans la même maison. On s'en occupait aussi, tant bien que mal, mais c'est vrai que je n'ai pas des souvenirs plus proches avec lui, malheureusement, dû à cette histoire.
Oui, c'était... Alors, avec ta grand-mère, on peut dire qu'il y avait une communication... différente,
oui,
originale,
mais oui.
Très puissante, très forte. Oui. Alors qu'avec le grand-père, c'était pas, il y avait moins de connexion.
Ouais, il n'y avait pas de connexion, il me faisait un peu peur.
Bien sûr, quand on peut le comprendre.
Voilà, c'était plus dur pour moi de communiquer.
Comme on peut le comprendre de n'avoir jamais réussi à se séparer
de cette histoire,
de ce drame qu'il a vécu, de cette situation atroce.
Et vraiment, aujourd'hui, je regrette parce que j'aurais aimé pouvoir être curieuse et comprendre en fait tout ce bagage qu'il y avait avec lui qui portait. Sur ses épaules et de pouvoir en parler, mais un peu trop jeune.
Oui, c'est comme si il y a toute une période où il n'y avait pas de place pour raconter ça, pour exprimer ça. C'est venu tardivement.
C'est ça.
Mon
père a quand même vécu des choses assez dures dans son enfance dû à ça, dû à ses origines. Et il est rentré dans un mutisme par rapport à son histoire. C'était compliqué d'en parler. J'avais des brides de petites choses, mais je sais que c'est quelque chose qui est en lui, qu'il vit aussi avec cette histoire en lui, et c'est difficile encore pour lui d'en parler.
Oui, là on est dans la transmission générationnelle, ce que vivent les gens de la famille se répercute sur les générations d'après, ouais, inévitablement.
Complètement, ouais. Il voulait nous préserver, tout simplement.
Mais tout ce que tu nous as partagé là sur l'histoire de Cécile, et je t'en remercie, c'est ton père qui te l'a raconté. Toi, la transmission, elle s'est faite par ton père.
Oui, par mon père, mais difficilement, en questionnant. Et je remercie cette émission, puisque c'est grâce à elle où j'ai pu quand même en questionner un peu plus mon père. Et puis, voilà, j'ai dit, il faut qu'on parle. Il a eu peur. Il faut qu'on parle. J'ai besoin d'en connaître un peu plus, et puis de mémoriser ce qui s'est passé, et puis de pouvoir l'expliquer par mes propres mots derrière. Mais voilà, c'est aussi grâce à cette émission où mon père a pu parler, se confier.
Et toi, tu redoutais de le questionner un peu ?
Pas plus que ça, puisque je le mettais sur le fait accompli, entre guillemets, en disant « j'ai pas le choix, il faut que je prépare cette émission, j'ai envie de parler de ma grand-mère, j'ai envie de pouvoir transmettre des choses ». Et puis là-dessus, je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts aussi, il s'est fait accompagner pendant longtemps, et maintenant il arrive à dire les mots sur ses mots, il arrive à sortir tout ça, ça lui fait du bien aussi, je pense.
Oui, c'était ma prochaine question, ouais. Est-ce que ça lui a fait du bien ? Est-ce que vous avez vécu un beau moment, un moment fort tous les deux à partager autour de ça ?
Alors c'était autour d'un repas, j'ai une petite fille qui... bizarrement, elle était très muette pendant tout le repas. Je pense qu'elle a écouté.
Elle a compris, ouais, elle a tout compris.
Je pense qu'il
se passait quelque chose.
Elle a dû entendre, parce qu'ils ont même dit, dis donc, t'es bien calme. D'habitude, c'est une petite flèche. Et non, elle était même bien calme. Je pense qu'elle écoutait de sa petite oreille aussi ce qui s'est passé.
Donc, elle a compris qu'il fallait vous laisser au calme.
Complètement.
Aussi.
C'était intéressant.
Merci beaucoup, Cécile. Il est déjà l'heure de mettre fin à cette conversation grand-maternelle. Un grand merci d'être venue rendre visite à Albertine et d'avoir partagé les souvenirs.
Avec plaisir. Grand plaisir.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. Et on se quitte, comme d'habitude, avec un texte choisi et lu par notre invitée, Cécile Holman.
Alors, pour la petite histoire, ce texte est une parole de chanson qui me parlait beaucoup. Parfois, je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir, les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là ? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là ? Je me raconte des histoires pour m'endormir à ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là ? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là ? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là, pas loin, même si c'est fou. Les fous, c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là ?